Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le Saint-Siège interpelle l'Union européenne face au drame de l'immigration. La communauté internationale doit avoir honte devant les corps des naufragés. Un an après le voyage du pape François à Lampedusa, le problème est en train de s'aggraver et les tragédies se succèdent à un rythme rapide. Le pape François qui a évoqué ce dimanche à l'Angélus les nombreuses personnes qui supportent chaque jour les conséquences d'un système économique qui exploite l'homme. Ce système, a-t-il dénoncé, leur impose un joug insupportable que les quelques privilégiés ne veulent pas porter. Dans ce magazine, nous parlerons également de la répression au Laos et en fin d'émission, entretien avec Catherine Chalier, professeure de philosophie à l'université de Paris-10-Nanterre et auteur, entre autres, de « La nuit, le jour » qui a reçu le prix des écrivains croyants. Le premier anniversaire de la visite du pape François sur l'île de Lampedusa qui avait tant frappé les esprits a été commémoré en cette fin de semaine en Sicile. C'était le 8 juillet 2013. Le Saint-Père avait prié pour les nombreux naufragés. Son geste, a-t-il lui-même expliqué, visait aussi à exprimer sa proximité avec ces migrants en quête d'une vie meilleure, à attirer l'attention sur leur drame et à remercier la population locale qui fait preuve d'un louable esprit de solidarité. Plusieurs manifestations ont été organisées par l'archidiocèse d'Agrigente. Samedi soir, l'archevêque de la ville a lu publiquement un message du pape François, Hélène Destombes.
Cette fois, c'est spirituellement que le Saint-Père se rend en Méditerranée pour pleurer avec ceux qui sont dans la peine et pour prier en mémoire des victimes d'un drame sans fin. Comment accepter la mort de personnes qui affrontent des voyages exténuants pour fuir la pauvreté, la guerre, les conflits qui résultent souvent de la politique internationale? Dans son message, le pape François demande avec force que cette tragédie soit affrontée avec la logique de l'hospitalité et du partage et non pas avec celle de l'indifférence. Il appelle les institutions compétentes, spécialement au niveau européen, à se montrer plus courageuses et généreuses à l'égard des réfugiés. Des propos relayés dimanche matin par un responsable de la curie romaine au cours d'une concélébration eucharistique sur l'île, symbole du drame de l'immigration, le président du Conseil pontifical pour les migrants a posé la question de la distribution équitable des richesses mondiales. Aujourd'hui, comme dans le passé, a déploré le cardinal Velio, l'Afrique est non seulement dérobée de ses ressources, mais aussi de sa jeunesse. Certes, a-t-il reconnu, ces arrivées massives représentent un problème qu'il faudra résoudre. Le Saint-Siège en est convaincu. S'ils sont correctement gérés, les flux migratoires ne sont pas une menace, mais une chance pour une Europe fatiguée et vieillie. Une Europe qui peut rajeunir en reconnaissant les racines chrétiennes de son ouverture généreuse, du respect de la diversité et de la recherche du bien commun.
L'Italie a obtenu un soutien renforcé de la part de Frontex, l'agence de surveillance des frontières européennes, et des aides supplémentaires pour gérer l'afflux de migrants. Mais elle voudrait de la part de l'Union européenne et en particulier des pays du nord de l'Europe une plus grande solidarité dans l'effort pour accueillir les immigrés. Et toujours au chapitre des migrations à Washington, une conférence nationale se déroulera de lundi à jeudi. Elle est organisée par la Commission épiscopale pour les migrants et les réfugiés en collaboration avec Caritas et avec le réseau légal des catholiques des États-Unis pour l'immigration. Le débat portera entre autres sur le problème des mineurs non accompagnés, sur les victimes de la traite et les personnes vulnérables. Les travaux seront inaugurés lundi soir par le président de Caritas Internationalis, le cardinal Maradiaga, un des 9 membres du Conseil des cardinaux, chargé de seconder le pape François dans le gouvernement de l'Église et la réforme de la curie romaine. Et à Rome, le pape François a dénoncé une nouvelle fois ce dimanche le système économique qui exploite l'homme. Le Saint-Père s'adressait à la foule des fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Commentant l'évangile de ce dimanche, il a invité les chrétiens à apporter à l'exemple de Jésus le soulagement et le réconfort aux personnes qui souffrent, qui sont épuisées, qui ont besoin d'aide, de tendresse et d'espérance. Le pape François pense surtout à ceux qui sont opprimés par des conditions de vie précaires, par des situations existentielles difficiles et parfois dépourvues de références solides. Dans les pays les plus pauvres, mais aussi dans les périphéries des pays plus riches, il y a tant de personnes qui ploient sous le poids insupportable de l'abandon et de l'indifférence qui fait tant de mal à ceux qui sont dans le besoin, surtout quand ce sont des chrétiens qui se montrent indifférents. En marge de la société, il y a tant d'hommes et de femmes touchés par l'indigence, mais aussi par l'insatisfaction et les frustrations. Et puis il y a ceux qui ont tout, mais dont le cœur est vide. À l'exemple de Jésus, les chrétiens sont appelés à leur tour à prendre sur eux le fardeau de leur prochain. Mais, avertit le souverain pontife, il faut le faire avec douceur et humilité, pour ne pas accabler ces personnes par nos points de vue personnels, nos jugements, nos critiques ou notre indifférence. Au Laos, les violations des droits de l'homme et en particulier de la liberté religieuse se poursuivent. C'est le constat accablant établi par Human Rights Watch dans un rapport. La répression antichrétienne se multiplie et s'intensifie, notamment dans les régions rurales. L'ONG dénonce de nombreuses apostasies forcées à l'encontre des chrétiens par les autorités locales. Et face à cette répression toujours plus massive, l'attitude des autorités est très équivoque. C'est ce que constate Marie-Sophie Boulanger, journaliste à l'agence de presse Église d'Asie.
Il faut savoir que dans la constitution du Laos, bien entendu, la liberté religieuse est acquise pour tout citoyen. Alors on peut se dire que ça garantit la protection de ses droits dans toutes les provinces. Or, pas du tout. Il se trouve que les fonctionnaires locaux ont un pouvoir assez conséquent sur leur propre région. Et donc, c'est pour ça que dans le nord, ça se passe plus difficilement. L'église est quasiment silencieuse. Dans d'autres provinces, il y a une espèce d'entente tacite avec les autorités. Et à Savannakhet, dans cette province, où il y a beaucoup, beaucoup de petits fonctionnaires sur des régions extrêmement rurales, il y a un système qui n'a pas bougé depuis des siècles, où ce sont les conseils de village et les petits fonctionnaires qui régissent tout. Et donc c'est là où ça commence à faire basculer l'équilibre qui existait avant. Et lorsqu'il y a 5-6 familles qui se convertissent au christianisme dans un village, le chef de village et le conseil de village a l'impression qu'ils ne vont plus pouvoir du tout avoir la main sur les affaires de la communauté.
Quelle est la proportion de chrétiens donc dans cette communauté bouddhiste au Laos ?
Les Laotiens d'eux-mêmes disent former 67% de la population en tant que bouddhiste, ce qui laisse un peu moins de 2% de chrétiens, parmi lesquels on compterait environ 0,7% de catholiques. Donc c'est très très infime. Et le reste du pourcentage, ça se répartit entre les musulmans, et puis aussi toutes sortes de religions animistes, chamaniques, mais qui ont été très très bien intégrées au bouddhisme. Le Laos, en fait, considère qu'être bouddhiste, c'est être laotien. Donc ça fait partie de l'identité laotienne, et c'est l'ensemble de la population bouddhiste laotienne qui, en ce moment, semble prendre peur vis-à-vis des chrétiens qui sont perçus comme des invasions étrangères qui va détourner la population de ses traditions. Et donc c'est pas uniquement le fait du gouvernement, c'est l'ensemble de la population d'un village qui va trouver le chef de village ou qui va trouver le responsable de district ou celui de la police ou les bonzes pour leur dire nous avons trop de chrétiens.
Il y a vraiment une progression justement donc de la religion chrétienne qui vraiment pourrait justifier le fait qu'il y ait une inquiétude.
On ne peut que remarquer, et ça on le sait par les ONG protestantes, il y a des conversions beaucoup plus importantes ces deux dernières années. Je ne peux pas vous dire exactement à quoi c'est dû, probablement déjà au fait que les protestants ont une technique d'évangélisation qui est un petit peu plus virulente. Et puis aussi, je crois que c'est parce que ça commence à se savoir. Parce que ça fait pas si longtemps d'ailleurs qu'on sait exactement ce qui se passe dans le Nord et pourquoi des communautés entières se terrent dans le silence, pourquoi aucun prêtre ne peut venir célébrer la messe, etc. Il y a une église du silence qui progressivement sort de la clandestinité et qui commence à s'exprimer par l'intermédiaire d'ONG, par les rapports qui sont transmis à la Commission des droits de l'homme. Et c'est tout ce travail qui fait affleurer ces persécutions, il faut les appeler comme elles sont, qui probablement n'auraient pas dit leur nom il y a quelques années, simplement parce qu'on les ignorait.
Marie-Sophie Boulanger, journaliste à l'agence de presse Église d'Asie, interrogée par Audrey Radondi. Dans l'actualité de cette semaine, le gouvernement de Kinshasa a accusé jeudi les évêques catholiques de violer l'ordre démocratique des choses en critiquant comme ils l'ont fait son projet de modification constitutionnelle. Dans un message, la conférence des évêques de République démocratique du Congo a souhaité mardi que l'élection présidentielle de 2016 soit l'occasion d'une transition véritablement démocratique et a exhorté le président Kabila à s'effacer du pouvoir à cette date. Elle recommande par ailleurs au Parlement de s'abstenir de voter des modifications constitutionnelle susceptible de rompre des valeurs fondamentales acceptées par l'ensemble du peuple. Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement de Kinshasa a qualifié cette exhortation d'injonction comminatoire dont il a remis en question la légalité et la légitimité. Il a trouvé déplorable que les évêques se fassent l'écho des soupçons de l'opposition qui accuse le président Joseph Kabila de chercher à tout prix à s'accrocher au pouvoir. En Argentine, des militaires ont été condamnés vendredi pour l'assassinat d'un évêque en 1976, pendant la dictature. Monseigneur Enrique Angelelli avait dénoncé avant sa mort les assassinats d'opposants au régime militaire. Il n'hésitait pas à s'opposer à la junte au pouvoir alors que la répression était féroce. À l'époque, les autorités avaient annoncé que l'évêque était mort dans un accident de la route. À Genève, la première session ordinaire du nouveau comité central du Conseil œcuménique des Églises a été inaugurée le 2 juillet. Sa présidente Agnès Abuhomme veut redonner au mouvement œcuménique son dynamisme prophétique et sa vigueur. Selon elle, une spiritualité œcuménique revitalisée ne doit pas être limitée par des cadres religieux, ecclésiaux et dogmatiques. Elle doit plutôt adopter une attitude prophétique en faveur de la justice, de la paix et du service diaconal à tous les êtres vivants. Le Conseil œcuménique des Églises rassemble 349 églises représentant 560 millions de chrétiens. Deuxième partie de ce magazine. Dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose de réécouter un entretien réalisé au mois de janvier avec Catherine Chalier, philosophe, spécialiste du judaïsme et auteur de plusieurs ouvrages sur les liens entre la pensée hébraïque et la philosophie. Interrogée par Catherine Aubin, elle nous avait parlé de sa découverte du philosophe juif Emmanuel Lévinas et nous avait livré une question fondamentale qui revient dans ses derniers ouvrages. Comment chercher Dieu dans un monde déserté par la présence de Dieu et garder l'espoir.
Catherine Chalier, vous êtes philosophe et dans la philosophie, il y a, il me semble, dans votre parcours, un personnage central qui est Emmanuel Lévinas. Comment avez-vous trouvé ou comment Emmanuel Lévinas vous a-t-il trouvé et quel est son apport dans votre vie, dans votre parcours, dans votre trajectoire de philosophie?
Cet apport est tout à fait essentiel et en fait j'ai commencé à lire son œuvre très tôt, à la fin de mon année de terminale, c'est-à-dire à 17 ans, grâce à mon professeur de philosophie de l'époque, Elisabeth de Fontenay, qui m'avait conseillé de lire Totalité infinie pendant les vacances. C'est un peu comme des rencontres très profondes, le pressentiment que ce qu'il disait correspondait à ce que je cherchais de façon bien sûr obscure et à tâtons à cet âge-là.
Est-ce que Emmanuel Lévinas va être pour vous le point de contact qui va vous faire entrer plus profondément dans le judaïsme?
Pas en tant que personne, mais plutôt par des lectures personnelles. Je cherchais ce que signifie pour un être humain, mais en tous les cas pour moi en particulier. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Les textes juifs que je lisais en français à l'époque me parlaient profondément. Et il me semble que, conjointement à cela, la lecture de Lévinas me conduisait aussi à une certaine rigueur. Je dirais aussi que c'est une œuvre qui est marquée par la tragédie terrifiante de la Shoah, mais ce n'est pas une œuvre désespérée. Et au fond, si je regarde les choses de façon a posteriori, à travers les différents écrits que j'ai pu faire, et ce qui m'a toujours intéressée, c'est comment tenir à la fois l'affrontement au mal, personnel bien sûr, la souffrance personnelle, mais la souffrance du monde, et puis l'espoir. Garder les deux ensemble, pas d'une façon naïve, pas en faisant semblant que le mal n'existe pas. Or, je crois que cette œuvre-là répond à ça, par une exigence très grande vis-à-vis de soi-même, au fond qui me semble la seule réponse possible, qui seule peut conduire à un monde plus juste et dans lequel la souffrance des êtres humains soit prise en compte et possiblement apaisée.
Justement, vous avez écrit un livre sur l'espoir. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre ?
J'ai essayé de réfléchir à ce que signifiait l'espoir d'un point de vue intérieur. Qu'est-ce qu'une attitude d'espoir intérieurement pour une personne ? Non pas espérer ceci ou cela, un succès, une rencontre amoureuse, le bonheur. Donc essayer de déconnecter par rapport à l'imagination que l'on a de quelque chose qui s'ajusterait à notre attente, je ne pense pas que l'espoir c'est ça. Et donc essayer de voir ce que l'espoir suscite en nous comme attitude subjective par rapport à la réalité. Et donc cette attitude subjective, j'essaye de la décrire, mais j'essaye aussi de réfléchir à ce sur quoi elle est fondée. Or, elle est fondée sur la promesse de Dieu. C'est la promesse qui donne la force d'espérer quand autour de soi, la souffrance et le mal semblent gagner. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que ce soit facile, parce qu'il s'agit toujours de retrouver en soi ce fil de vie qui est lié à la promesse, c'est-à-dire à la parole donnée aux hommes, à un bien qui est antérieur au mal et qui est souvent effacé par lui, mais qui n'a pas disparu, mais qui est parfois somnolent et puis peut-être on croit qu'il n'existe plus. Et donc je crois que c'est ça, espérer, s'éveiller sur ce point de vie en nous, sur ce bien qui est en nous, essayer d'en retrouver le chemin lorsque l'on l'a perdu et essayer si possible aussi de le faire découvrir à d'autres et de le transmettre.
Il y a parmi vos nombreux ouvrages un livre sur le désir de conversion dans lequel vous parlez de grandes figures, Ethyl Soum, Thomas Merton, Frank Rosenzweig. Quel est le dénominateur commun de ces personnes ? Et aussi ce livre que vous avez écrit sur ce rabbin, le rabbin qui a tenu des homélies dans le ghetto de Varsovie pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, ça c'est le rabbin Kalonynus Kalman Shapiro. Ce rabbin s'est trouvé captif dans le ghetto de Varsovie. Et puis, il a continué à donner des homélies à ceux qui l'entouraient. Et on voit toute une évolution dans son parcours parce qu'au départ, il a une conception un peu classique et simple. Si nous souffrons, c'est que sans doute nous avons péché, etc. Et puis après, il renonce à cette théologie et à la vision de Dieu qui est liée donc à une telle pensée. Mais en même temps, jamais il ne renonce à transmettre à ceux qui l'entourent des paroles de Torah pour que, au moins, ils ne meurent pas en ayant oublié ces paroles et que leur âme ne soit éteinte avant même qu'ils soient conduits à mort. Et c'est très émouvant, c'est très beau. Et ce qui me semble très profond et qui est aussi un point commun avec les autres personnes que vous avez citées, c'est que du fin fond de la souffrance, et ça c'est peut-être un secret pour chacun d'entre nous, il continue de s'adresser à Dieu, à un Dieu qu'il ne comprend pas, mais à un Dieu, dit-il, et ça je trouve ça très très profond, un Dieu qui sans doute lui donne la force de souffrir. Il dit à un moment donné, nous ne pourrions pas souffrir autant si tu n'étais pas avec nous. Pour en revenir au livre sur le désir de conversion et aux personnes que vous avez citées, moi, ce qui me semble marquer une parenté entre ces personnes, c'est une quête très profonde de Dieu, justement dans un monde qui semble déserté par la présence de Dieu. Et Rosenzweig, qui lui a vécu la Première Guerre mondiale dans les tranchées, dit « sur la scène vide de l'histoire », c'est-à-dire il n'y a pas de présence de Dieu dans l'histoire selon lui, « tu nous as parlé ». Ethyl Soum aussi, elle qui se trouve donc dans le camp de Westerbork et qui ne se fait pas d'illusions sur ce qui va l'attendre. Et Thomas Merton, lui aussi, par rapport à la Première Guerre mondiale. La tentation, c'est le désespoir. La tentation, c'est la tristesse. C'est l'abandon à la neurasthénie, au nihilisme. Ça, disent les sages juifs, attention, c'est la présence en vous-même du mauvais penchant, c'est-à-dire de votre propre tentation aussi. Et lutter contre ça en soi-même, peut-être certaines personnes ont moins lutté contre ça que d'autres, je ne sais pas, mais lutter contre ça en soi-même quand on a un tout petit peu conscience de l'état du monde et aussi de la souffrance autour de soi, c'est une grande difficulté, bien sûr. Mais qu'est-ce qui sauve, c'est cette adresse à Dieu, cet appel, non pas comme dit Rabbi Kalonynus Shapiro, pour qu'il nous sauve de la situation, il sait très bien que non, est-il soum aussi. Et l'un et l'autre disent à leur façon, ce n'est pas à toi de nous aider, c'est à nous de t'aider. c'est-à-dire à faire en sorte que justement ta présence en nous ne disparaisse pas.
Catherine Chalier, philosophe et spécialiste du judaïsme, interrogée par sœur Catherine Aubin. L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican. En français, bonne semaine à tous.